Accueillez avec douceur la parole plantée en vous et capable de vous sauver la vie. Devenez des artisans de la parole et pas seulement des auditeurs qui se berceraient d'illusions. Tels sont les mots de l'épître de Jacques qui nous engage à nous tenir dans une présence vigilante, une veille de chaque instant pour sortir du prêt-à-penser, du prêt-à-croire, d'un langage qui dispense de porter soi-même le travail de la parole. Amis, frères et sœurs, recevez ici et maintenant la grâce et la paix de la part de Dieu notre Père, de Jésus-Christ, son Fils, notre Sauveur et notre Frère.
Tournez le dos. Bienvenue à vous toutes, vous tous, dans ce temple pour ce temps de culte. Bienvenue à celles et ceux qui nous rejoignent peut-être par le biais des réseaux sociaux. Nous sommes les uns avec les autres en communion ce matin et nous avons la chance d'accueillir ici pour ce temps de culte, pour ce matin, une prédication qui sera donnée par Jean-Marie de Bourquenay, notre collègue qui est directeur du journal Réforme, notre journal que je vous recommande. Et il était pasteur à Paris-Batignolles, et donc peut-être y a-t-il aussi ici des paroissiens de Paris-Batignolles ou des paroissiens qui l'ont connu dans d'autres paroisses, et nous voulons les saluer particulièrement ce matin. Je vous invite à la prière. Éternel, Dieu de la vie, tu nous appelles et nous rassembles dans notre plus grande diversité et tu nous unis par le souffle de ton esprit. Nous te rendons grâce pour ta fidèle présence à nos côtés. Amen. Et c'est David Cassan qui est à l'orgue ce matin pour accompagner ce culte. Nous prenons le premier répond dans le début du psautier français. Vous avez toute la liturgie avec les réponds du culte. Louons le Seigneur. Éternel, nous te louons pour tout ce qui se dit, tout ce qui se fait, mais qui ne se voit pas. Éternel, nous te louons pour les petites choses de la vie, celles que personne ne remarque, celles que l'on soupçonne à peine. Éternel, nous te louons pour cette lueur de joie dans les yeux d'un malade, pour la complicité d'un enfant et le passant d'un instant. Éternel, nous te louons pour le geste gratuit, un sourire, un message d'encouragement, une poignée de main, une tape sur l'épaule. Éternel, nous te louons pour le silence gardé aux portes de la révolte, pour le pardon donné au lieu de la vengeance, pour la parole d'amour à la place de l'insulte, pour la prière muette au cœur du drame de l'autre. Éternel, nous te louons pour l'humble qui se tient à l'ombre du puissant, pour l'inutile en apparence, pour le bien qui jamais ne peut se dire, et pour les joies secrètes au milieu des tourments. Éternel, nous te louons Nous prendrons comme cantique le psaume 107, aux strophes 1, 2, 3 et 4 dans le psautier français.
Prenez place. Écoutons ce que Dieu veut pour nous et nous donne la force de faire. Tu aimeras le Seigneur de tout ton cœur, de toute ton âme, de toute ta force, et de toute ta pensée. C'est là le premier et le grand commandement. Et voici le second qui lui est semblable. Tu aimeras ton prochain comme toi-même. Il n'y a pas d'autre commandement plus grand que ces deux-là. Fais cela et tu vivras. prions ensemble. Éternel, nous voici devant toi et nous te confions tout ce qui nous fait souffrir. Nous essayons de faire le bien que nous aimons et nous faisons le mal que nous n'aimons pas. Nous essayons de vivre une vie honnête et nous sommes pris en défaut parce que nous ne savons pas réellement aimer. Nous ne volons pas. Nous ne tuons pas. Nous ne disons pas de faux témoignages. Mais au-dedans de nous, ce ne sont que sentiments négatifs, mensonges, médisances, préjugés et désirs de mort. Chacun connaît ses torts, chacun connaît ses faiblesses. Tous ensemble, nos torts et nos faiblesses sont des montagnes. Éternel, viens à notre secours, soulève ces montagnes et fais-les basculer dans la mer, que nous soyons enfin délivrés de cette pesanteur, que nous puissions aimer à notre tour et libérer celles et ceux que tu places dans notre vie. Amen. Accueillir le pardon de Dieu, je vous invite à vous lever. Mon frère, ma sœur, mon ami, à celui qui croit que Dieu peut tout, que rien ne lui est impossible, à celui-là, Dieu accorde le pardon total et définitif, la paix et la joie. Parce que tu t'es reconnu devant Dieu comme incapable d'aimer, tu es maintenant sur le chemin de l'amour. Parce que tu t'es reconnu faible, tu es maintenant plus fort que les puissants de ce monde. Et parce que tu t'es reconnu solitaire, il t'est donné une communauté d'hommes et de femmes, tes semblables. Alors, relève-toi et va dans la joie que Dieu te donne. Chantons notre reconnaissance. Je crois en Dieu, le Père Tout-Puissant, Créateur des cieux et de la terre. L'Éternel règne, il est esprit, il est amour. L'amour de Dieu envers nous s'est révélé en ceci. Alors que nous étions encore pécheurs, Christ est mort pour nous. Je crois en Jésus-Christ, notre Seigneur. Il est venu chercher et sauver ce qui était perdu. Il est le chemin, la vérité et la vie, le même hier, aujourd'hui, éternellement. À ceci, tous reconnaîtront que nous sommes ses disciples si nous avons de l'amour les uns pour les autres. Je crois au Saint-Esprit, qui rend témoignage à notre esprit que nous sommes enfants de Dieu. Nous avons été baptisés d'un seul esprit pour former un seul corps. Je crois au royaume de Dieu, à l'amour plus fort que la mort. Je crois la vie éternelle. La victoire par laquelle le monde est vaincu, c'est notre foi. Seigneur, augmente notre foi.
Gloire à Dieu dans les cieux et sur la terre, et d'éternité en éternité. Je vous invite à vous asseoir. Et je vous propose d'entendre ce texte sur le jeune homme riche, mais auparavant, je vous invite à la prière. Éternel notre Dieu, notre Père, notre Mère, notre énergie, notre puissance de vie, quel que soit le nom que nous te donnons, nous te prions. Nous te prions pour que ce texte écrit de la main des hommes devienne pour nous une parole reçue, une parole méditée et une parole dont nous devenions à notre tour les porteurs enthousiastes pour nous-mêmes, pour l'Église et pour le monde. Amen. Et voilà donc que dans cet évangile de Marc, au chapitre 10, les versets 17 et suivants. Comme Jésus se mettait en chemin, un homme accourut et se jetant à genoux devant lui, il lui demanda « Bon maître, que dois-je faire pour hériter la vie éternelle ?» Jésus lui dit « Pourquoi m'appelles-tu bon ? Personne n'est bon. Si ce n'est Dieu seul, tu connais les commandements. Ne commets pas de meurtre, ne commets pas d'adultère, ne commets pas de vol, ne dis pas de faux témoignages et ne fais de tort à personne. Honore ton père et ta mère. » Il lui répondit, « Maître, j'ai gardé tout cela dès ma jeunesse. » Et Jésus, l'ayant regardé, l'aima. Puis il lui dit, « Il te manque une chose, va, vends tout ce que tu as, donne-le aux pauvres et tu auras un trésor dans le ciel. Puis viens et suis-moi. » Mais lui s'assombrit à ces paroles et s'en alla tout triste, car il avait de grands biens. Jésus, regardant autour de lui, dit à ses disciples qu'il est difficile à ceux qui ont des biens d'entrer dans le royaume de Dieu. » Les disciples étaient stupéfaits par ces paroles. Et Jésus reprit et leur dit, « Mes enfants, qu'il est difficile d'entrer dans le royaume de Dieu. Il est plus facile à un chameau de passer par le trou de l'aiguille qu'à un riche d'entrer dans le royaume de Dieu. » Les disciples s'étonnaient encore davantage et se disaient les uns aux autres, « Alors qui peut être sauvé ?» Jésus les regarda et dit, « Cela est impossible aux hommes, mais non à Dieu, car tout est possible à Dieu. » Pierre se mit à lui dire, « Voici que nous avons tout quitté et que nous t'avons suivi. » Jésus répondit, « En vérité, je vous le dis, il n'est personne qui ait quitté à cause de moi et de l'Évangile, maison, frère, sœur, mère, père, enfant ou terre, et qui ne reçoive au centuple, présentement, dans ce temps-ci, des maisons, des frères, des sœurs, des mères, des enfants et des terres, avec des persécutions et dans le siècle à venir, la vie éternelle. Plusieurs des premiers seront les derniers et les derniers seront les premiers. » Seigneur, ta parole est vérité, sanctifie-nous par ta vérité. Amen. Et je vous invite, si vous le voulez bien, à vous lever pour chanter le cantique 179, les strophes 1, 2 et 3 du 179. Je vous invite à vous asseoir et je vous invite aussi à la prière. Éternel, ta parole traverse le temps, traverse l'histoire, traverse nos vies, traçant des chemins de lumière. Par elle, nous ne sommes plus perdus au gré du vent, ballottés dans les agitations et les incertitudes du présent. Car nous croyons que nos racines profondes et notre destination dernière sont en toi. En ton esprit qui souffle sur le monde, du commencement jusqu'à la fin des temps. La grande souffrance des êtres humains, notre grande souffrance est de t'avoir perdu ou de te perdre encore, ou de fermer à ta voix nos portes intérieures, de sorte que nous sommes privés de mémoire et d'espoir. Mais ta parole, si nous savons l'entendre ou la garder, nous enracine dans les profondeurs du passé et lance vers l'avenir des passerelles d'espérance. Elle élargit nos cœurs et nos pensées en ouvrant nos vies à leur vraie dimension, leur vraie grandeur, leur vraie durée, celle de l'infini et de l'éternité. Éternel, ouvre nos portes intérieures pour que passe au profond de nous ton souffle créateur. Amen. Dans les bonnes facultés de théologie, comme bien sûr celle de Paris et de Montpellier, où j'ai eu l'occasion de faire mes études il y a déjà quelques années, quelques dizaines d'années, nos professeurs, et puis aussi le pasteur Louis Simon, nous disaient que pour faire une bonne prédication, il faut un texte, évidemment, mais il faut le malaxer, le triturer, le relire, le retraduire, bref, l'explorer, nous disait-il. Mais il ajoutait, il faut des oreilles. Écouter ce que les uns et les autres ont à dire sur le texte et sur le thème qui s'en dégage. Il ajoutait enfin, il faut des yeux. Il faut des yeux, il faut avoir, comme disait Barthes, pour préparer une prédication, la Bible dans une main et le journal dans l'autre. Et si possible, le journal Réforme, bien entendu. Alors, regardons donc ce texte avec cette méthode. À nouveau, l'auteur de l'Évangile force le trait, parce que ce texte, vous l'avez entendu, est dur. Comme il l'avait fait d'ailleurs lors de l'appel des disciples qui ont dû tout abandonner pour suivre Jésus. C'est ce que certains commentateurs appellent la parénèse de conflit, c'est-à-dire l'exhortation, mais où on met l'auditeur du texte, et je dis bien l'auditeur du texte. Car il nous faut nous souvenir, chers amis, que les textes bibliques n'ont pas été écrits pour être lus, puisque presque personne ne savait lire. Ils ont été écrits pour être entendus. Et donc, l'auditeur du texte se trouve devant une exhortation, devant un choix qui est parfois un peu radical, blanc, noir, oui, non. Mais c'est pour l'inviter à réfléchir par lui-même à sa propre vie, sa propre autonomie, ses propres choix, sa propre foi. Il ne s'agit évidemment pas d'abandonner sa famille réellement, comme le verset 29 nous y invite, mais de pouvoir, au sein de nos propres familles, acquérir son autonomie. Comme dans la vie réelle, les enfants vivent chez leurs parents, dépendent d'eux, sont protégés par eux, mais deviendront un jour adultes, enfin il faut l'espérer, à moins de rester des tanguis, comme j'en ai un à la maison d'ailleurs. Enfin bref, ça c'est une autre histoire. Plus l'on grandit, plus on devient autonome, responsable. Et on devient même parfois, quand on est adulte, responsable des erreurs des autres. Il me semble que le thème central de ce texte, et d'ailleurs de la notion de richesse et de pauvreté dans l'Évangile, c'est celui de la relation aux autres et à l'autre. En effet, dans l'Évangile, le riche n'est pas simplement, c'est pas une question d'argent d'abord. C'est celui qui pense qu'il se suffit à lui-même. Il a tout et n'a donc pas besoin des autres. Et face à lui, le pauvre est celui qui accepte de dépendre des autres et qui a besoin des autres, sans doute du coup de l'autre avec un grand A. Heureux les pauvres, disaient les Béatitudes. Le pauvre reçoit ici, au verset 21, un trésor dans le ciel. Ça ne veut pas dire, comme on l'a parfois dit aussi dans l'histoire chrétienne, restez bien pauvre, restez bien malheureux ici sur cette terre, puisque là-haut, au paradis, vous serez riche et vous serez sans maladie, sans problème. Mais ici, je crois que si ce pauvre reçoit un trésor dans le ciel, c'est que justement, il accepte de dépendre des autres. Le riche, lui, vit dans sa bulle. Il vit pour lui de manière égocentrée. Au fond, c'est cela un riche. C'est un égocentrique. Ce n'est pas une question d'argent. Dans l'éthique protestante, on le rappelle souvent, l'argent n'est pas considéré comme mauvais. L'argent n'est pas considéré comme bon. L'argent est tel qu'on l'utilise. C'est un moyen. C'est tout. Mais ici, ce n'est pas de cela qu'il s'agit. Mais bien de la relation, se sentir en relation avec les autres et vouloir les servir. Voilà une des grandes valeurs défendues par notre protestantisme, et j'allais dire encore plus par notre protestantisme libéral, bien qu'on n'ait pas le monopole du service, évidemment. Bien que cela peut recouper parfois, c'est vrai, les questions matérielles de richesse ou de pauvreté, il faut donc élargir la symbolique à la manière de vivre en général. On nous rappelle, la psychologie nous le rappelle à juste titre, le désir naît du manque. Mais il peut parfois devenir un désir de posséder, de même posséder l'autre, de prendre possession, même d'un autre pays, comme c'est le cas en ce moment en Ukraine. C'est donc un désir absolu, mais pas un désir qui naît du manque de l'autre. Ici, le désir dont il est question, c'est le désir de vie. Il est question à plusieurs reprises de la vie éternelle, par exemple. On n'est pas ici dans une réflexion sur les biens matériels, ni sur le partage de ces biens, mais sur le partage de vie. Dans le texte, d'ailleurs, vous avez peut-être remarqué que l'homme riche est seul. Il arrive seul, ne voit que Jésus, et au travers de Jésus, la satisfaction de sa propre demande, et repart seul. Il n'a même pas vu les autres, et d'une certaine manière, il n'a pas vu l'autre. À l'inverse, Jésus invite à cette dépendance les uns des autres, puisque le texte dit au verset 21, « Jésus le regarda et il l'aima. » Alors c'est vrai que le verbe « aimer » en français est très particulier, puisqu'on peut aimer sa femme, on peut aimer Dieu et on peut aimer le foie gras. C'est mon cas. Mais c'est toujours le verbe aimer. En anglais, on a au moins la chance d'avoir like et love. Mais en grec, on a même trois verbes pour désigner cet amour. Jésus le regarda et il l'aima. C'est-à-dire de cet amour spirituel total qui donne à l'autre et qui engendre aussi, c'est vrai, une relation, donc une dépendance. En résumé, il ne s'agit donc pas de concilier autonomie de chacun et dépendance les uns des autres. Mais d'ailleurs, dans le langage même politique, certains font la distinction entre l'indépendance et l'autonomie. L'indépendance, c'est couper tous les liens. L'autonomie, c'est avoir des responsabilités tout en maintenant tout de même un lien. On peut donc dire que la pauvreté évangélique, c'est une forme d'autonomie avec une relation à l'autre, mais en même temps, une totale liberté. Alors, il nous faut des oreilles. En quoi ai-je besoin des autres? C'est là que l'intérêt de tous rejoint la responsabilité de chacune et de chacun. Savoir écouter sans vouloir à la place des autres, c'est parfois un piège lorsqu'on aide quelqu'un de vouloir l'aider selon nos propres projections, sans d'abord écouter. C'est vrai dans nos vies familiales, c'est vrai dans nos vies sociales, c'est vrai dans nos vies politiques. On le sent aujourd'hui dans ce monde, dans cette France, qui se tend et qui se replie en même temps, où chacun, c'est du chacun pour soi. On l'a vu encore cette semaine. Eh bien, il faut retrouver ce chemin justement de l'écoute, du dialogue. La crise nous fait comprendre que la solitude est quelque chose de négatif, celle des autres, nos solitudes aussi. Nous mesurons plus que jamais l'importance de la réciprocité, de l'échange, du partage pour construire une vie. Alors, il nous faut évidemment des oreilles, et il nous faut, je le disais, comme le disait Louis Simon, il nous faut des yeux. On a encore besoin de grandes figures qui sont des symboles pour nous, bien sûr, des prix Nobel de la paix. Notre monde souffre de repli et il est parfois important de se référer à quelques grands symboles de notre planète et de notre humanité. Nous avons besoin d'accepter cette dépendance pour vivre ensemble. Alors, c'est vrai que nous avons ensuite à formuler nos propres convictions dans cette relation. Et j'aime bien dire qu'en grec, le mot « choix » se dit « airesis », l'hérésie. Autrement dit, mes chers amis, tous autant que vous êtes des hérétiques. Et je ne vous dis pas ça pour vous insulter, bien au contraire, mais pour vous dire que nous sommes appelés, tout en ayant cette relation fraternelle lors de ce culte, à formuler, à choisir nos propres convictions. Mais, me disait ma grand-mère, tu as deux fois plus d'oreilles que de bouche, alors écoute deux fois plus que tu ne parles. À la fin d'une prédication, on dit généralement « Amen », je dirais simplement « Chut » et « Amen ».
dans le recueil Louanges et prières. Nous prendrons maintenant le numéro 265, dont nous chanterons les strophes 1, 2 et 3. Je vous invite à vous lever. Prenez place. Je cède la parole à Aurore Saguillot-Thébault, présidente du Conseil presbytéral.
Merci Jean-Luc de mettre en replay. Bonjour à tous. Tout d'abord, désolé pour le retard, mais nous avions eu un problème technique. Alors Jean-Marie, je disais à Jean-Marie quand il arrivait, mais c'est marrant, je ne te trouve pas sur le site internet, enfin, c'était pas drôle d'ailleurs, je ne te trouve pas sur le site internet, je t'ai jamais vu prêcher ici. Il me dit, si c'était avant 2009, me dit-il avec Gérard Delain, à l'époque il n'y avait pas la vidéo. Du coup ça ne nous a pas porté chance, parce que on a eu un mal fou à lancer le direct et l'image, mais on a réussi, on a raté ta lecture, mais tu auras quand même le reste de ta prédication qui sera en vidéo, mais il faudra donc que tu reviennes pour qu'on t'ait vraiment en entier. Voilà, donc vraiment désolé pour le retard, mais c'était un problème technique que nous avons réglé avec Gérard, et je remercie Gérard par l'occasion. Quelques annonces. Vacances scolaires, nous avions proposé pour aujourd'hui que vous veniez faire le plein ici plutôt que dans une pompe à essence, et vous avez été nombreux à décaler votre départ en vacances pour écouter Jean-Marie et également Gaël Giraud qui sera avec nous de 12h à 13h. Donc je vous en prie, si vous n'avez jamais entendu parler de Gaël Giraud, c'est l'occasion. Il est quand même de plus en plus connu, c'est vraiment un personnage, économiste, prêtre jésuite, directeur au CNRS, et qui a fondé à Washington, à l'université de Georgetown, le département pour la justice environnementale. Vous savez que c'est un sujet qui nous est cher ici à l'Oratoire du Louvre. Ça va plus loin que l'Église verte, ça va plus loin que l'écologie. C'est vraiment tout un raisonnement que vous aviez commencé à découvrir avec Stéphane Lavignotte ici même pendant les Journées du patrimoine. C'est la suite, également en écho de plusieurs prédications de nos pasteurs, sur ce qu'on appelle la justice environnementale. Donc restez de 12h à 13h, Gaël Giraud sera interviewé par Béatrice Cléromazière. Béatrice part juste après en vacances, pour la semaine, et toi tu la rejoins, vous échangez, elles n'arrivent pas à passer de vacances ensemble en fait, et pas encore, à la retraite on y arrivera. Donc la semaine prochaine c'est Béatrice qui est avec nous. Également, la semaine prochaine, c'est toi. Pardon, excuse-moi. Je vais y arriver. Donc, pendant les deux semaines qui viennent, c'est pause spirituelle le jeudi. La semaine prochaine avec toi, si j'ai compris. Et avec la semaine d'après avec Béatrice. Également, événement important, Nous commençons la rénovation, la restauration de nos vitraux ce mardi. Donc nous avons des cordistes qui vont arriver mardi matin, qui vont travailler pendant 3 à 4 semaines pour restaurer 4 de nos vitraux. Vous avez au fond à gauche une exposition sur nos vitraux. Donc juste après le culte, vous allez voir l'exposition en attendant Gaël Giraud. Et vous comprendrez pourquoi on a encore besoin de beaucoup d'argent et pourquoi nous commençons par ces 4 baies vitrées et pas les autres. Mais vraiment, en deux mots, il est plus logique de réparer en premier les baies vitrées qui sont les moins abîmées. Ça paraît contre-intuitif, mais il vaut mieux attendre que nous puissions tout de suite intervenir avec des cordistes, parce que quand on doit déposer avec un échafaudage, ça coûte beaucoup plus cher. Donc nous commençons les baies vitrées les moins abîmées. Voilà, ça c'est ce mardi. Merci à tous, bonnes vacances à ceux qui partent, bonne toux à ceux qui restent, et vraiment un grand merci d'être parmi nous. C'est le temps de l'offrande, je te passe le micro.
L'Église ne vit que de dons, les nôtres, et donc que chacun donne ce qu'il a décidé en son cœur, sans regret ni contrainte. Prions ensemble. Éternel Dieu de la vie, des hommes et des femmes se lèvent. Ils viennent de partout. Leurs poches sont vides. Leurs vêtements sont en lambeaux. La pauvreté est leur unique richesse. Ils ont tout partagé et pour eux n'ont rien gardé. Des hommes et des femmes se lèvent, ils viennent de partout, et sur leur visage passe le sourire de ta présence. Des hommes et des femmes se lèvent, ils viennent de partout pour consoler celles et ceux qui pleurent, combler les désirs de celles et ceux qui ont faim. Dans leurs bras, ils prennent la misère du monde. Et est ouvert comme une vaste maison pour les voyageurs perdus. Des hommes et des femmes se lèvent. Ils viennent de partout visiter les malades et les prisonniers qui entonnent des chants d'espoir et de reconnaissance. Des hommes et des femmes se lèvent en foule immense, tous se rassemblent et viennent devant toi, Éternel. Devant toi, ils se tiennent en disant « Tu es l'Éternel que notre cœur aime ». Nous confions à ton amour et à ta grâce l'ensemble de ces hommes et de ces femmes qui s'unissent pour être solidaires les uns des autres, quelle que soit la forme que prenne cette solidarité. Et nous rassemblons toutes nos prières dans celles que Jésus a enseignées à ses disciples. Notre Père, qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne. Que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. Amen. Et ensemble, recevons la bénédiction de la part du Seigneur. Mon frère, ma sœur, mon ami, que l'Éternel te bénisse et te garde. Que l'Éternel fasse rayonner sur toi son regard et t'accorde sa grâce. Que l'Éternel porte sur toi son regard et te donne la paix. Amen.